Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Direct News, le podcast. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le violoniste Fabrizio Fenarx, italien d'origine et genevois d'adoption, marié à Karine, musicienne elle aussi, avec une petite fille d'un peu plus de 3 ans. Fabrizio revient dans cet entretien sur ses débuts de violon en Italie, nous parle aussi de son concert dans une prison, de son mini-concert improvisé à l'aéroport de Genève qui a créé du reste le buzz, sans oublier un retour et bien sûr ses différentes prestations en Suisse, dont celle de janvier au Victoria Hall, intitulée Vibration. Cette interview vous permettra d'en savoir plus aussi sur le ragoût napolitain, un plat mijoté et transmis par sa maman. Et son intérêt pour le ski qu'il a beaucoup pratiqué comme enfant, tout comme le tennis du reste, et le tennis de table où on le dit redoutable. Un Fabrizio Fenarx passionné, sensible et attachant qui ne manque pas de rendre hommage à son instrument de travail dit Angel, un Stradivarius qui fêtera en grande pompe l'année prochaine ses 300 ans. Une belle émission où la première question a été « Et si tout cela était à refaire, Fabrizio, referais-tu la même chose ?»
Michel, je te dis oui, absolument. Tôt, vraiment tôt.
Y a
aucune
rien que...
regret.
Pour l'instant, c'est un parcours parfait. Si on regarde dans le rétroviseur, comme on dit des fois, c'est...
Bah, on peut peut-être changer 2-3 petites choses, mais dans l'essence de tout le parcours que j'ai fait, non, moi, je changerai vraiment rien.
Il n'y a jamais eu, Fabrizio, d'hésitation quand tu étais plus jeune. Bien sûr qu'il y a dû y avoir des moments de doute, des moments avec les parents, avec l'école, enfin, toutes ces choses-là. Comment est-ce que ça a démarré, en fait, tout ça?
Disons que moi j'ai démarré parce que mon arrière-grand-père était un grand musicologue, musicien, pianiste, et il avait dit à ma mère, écoute, si un jour toi tu as un enfant, fais-lui jouer du violon parce que ça éduque l'oreille, c'est un instrument à cordes, violoncelle, violon. Donc ma mère en a commencé comme ça un peu pour culture à jouer cet instrument que j'ai porté dans ma main, et après des années, tu vois, après 2-3 ans, mon premier maître Giovanni Leone, il avait dit non, mais il a du talent, il a une sensibilité, il fait faire ça. Et moi, j'ai commencé à faire des petits concours internationaux.
Toi, tout de suite, ça t'a plu? Tout de suite, ça a été
ça m'a plu parce que je pouvais porter ces violons autour de ma maison, je m'amusais, et ma mère, elle me contrôlait un peu. Après, elle m'a porté un concert d'un grand violoniste italien à l'Opéra de Naples. Et depuis là, moi, j'ai commencé à travailler un peu toute seule. Et donc, ça a démarré, j'ai fait des concours nationaux pour catégorie, après celui-là international, j'ai commencé très vite à faire des concerts, aussi à 12, 13 ans, 14 ans. Et ça, c'est, moi, je pense, la phase la plus difficile.
Avant ça, il a fallu apprendre le solfège, tout ça, ça allait parce que c'est souvent là un peu le problème.
Ça,
quand on est jeune, c'est pas évident l'instrument, ça va, mais le solfège, c'est un peu rude, hein, non?
Exactement, le solfège, l'histoire de la musique, l'harmonie aussi, c'était un peu difficile. J'avais une tonne de matière, plus les matières de l'école. Là, moi, j'ai eu la chance de avoir des professeurs qui était sensible à la musique, donc je l'ai invité aussi un peu au concert pour faire le voir qu'est-ce que je faisais. Et là, c'est la période la plus dure. Moi, je dois dire, c'est la plus dure, c'est le début de l'adolescence, parce que toi, tu vois tes copains ou tes amis qui peut-être vont jouer, ils vont faire autre chose, autre activité.
Et vis-à-vis des autres, ça passait comment? Parce que quand on dit on fait du violon, c'est pas très fun, quoi, le violon. Enfin, pas très fun, ça veut dire c'est pas la batterie, c'est pas la guitare électrique. Le regard des autres, c'était comment?
Mais c'était surtout le regard des parents, des autres, vis-à-vis de ma mère, qu'elle disait, mais pourquoi tu fais faire un peu de sport? Après, on pouvait pas faire du sport parce que sinon les mains, ça faisait bien. Et il disait, moi, c'est un peu bizarre. Puis, au fur et à mesure qu'elle voyait que moi, j'avais un peu du talent, tout ça s'est passé. Mais la période dure, c'est ça. Parce que toi, tu vois les autres faire des autres choses. Et nous, à cet âge-là, il faut vraiment travailler dur.
Parce que là, déjà, très vite, le violon, j'entends quand on commence le violon un peu fort, comme ça, on ne peut pas trop faire autre chose. C'est mauvais. Le reste, tout de suite, ça durcit. C'est le problème.
Les poignets. par exemple. Donc, moi, j'ai joué, moi, j'étais un sportif, j'ai joué du tennis.
On va en parler aussi, parce que je sais que tu étais un sportif, tu étais toujours, forcément.
Et donc, les poignets, les gens, on pouvait nager, on ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Et vraiment, il n'y avait pas le temps. Après l'école, il n'y avait pas le temps. Je faisais d'abord le violon, le solfège, comme tu disais, l'harmonie, etc. Et après, les autres matières.
Et là, déjà très vite, ça voulait dire, Fabrizio, combien d'heures par jour, déjà, c'était beaucoup.
Et ça veut dire 2-3 heures de musique, plus 2 heures de d'école.
Donc. Et là, dans ta tête, tu allais faire que ça? Tu pensais déjà que tu allais être un violoniste ou tu jouais comme ça pour t'amuser? Tu disais, on verra où ça va. Mais très vite, tu as voulu être un virtuose.
Très vite, il me mettait disons, le défi d'un concours, d'un concert. Non, je ne savais pas vraiment la profession, entre guillemets. Mais moi, j'étais très passionné, donc ça me plaisait au final. Une fois, moi, j'ai vu à 12 ans et demi, il m'a aussi donné un petit chèque. C'était 450 000 lire.
Ça fait pas beaucoup. D'accord,
450
l'époque.
Francs. Et moi, j'ai dit, on gagne aussi de l'argent. Mais moi, je ne savais pas vraiment la profession. La chose, ça m'intriguait, ça m'a passionné. Et j'allais chercher toutes les biographies des compositeurs en plus. Et je travaillais toute seule. Il n'y avait plus ma mère qui me disait, travaille le violon. Non, tu as oublié le solfège.
Il n'y avait pas besoin.
Et puis, j'avais 2-3 copains quand même au-delà de la musique. Que c'était aussi passionné, ils me sont aidés, ils me donnaient de la force.
Et Fabrizio, on en reparlera, toi tu es beaucoup dans la vibration, tu es beaucoup dans ces choses-là. Là déjà à l'époque, il y avait des vibrations, très tôt il y a eu ce que tu ressens aujourd'hui, ce que tu fais partager aux autres, ce que tu véhicules comme sensation, c'est énorme. Moi chaque fois que je viens à tes concerts, j'ai la chair de poule, quoi. Je te le dis comme ça entre nous, mais vraiment.
Vrai. Non, mais merci, c'était ça. Et c'est tout à fait ça. La première fois que j'ai pris mon violon dans la main et j'ai fait, je ne sais pas si j'ai fait vraiment un joli son, mais c'était quand même, j'ai fait vibrer la corde.
Tu t'es dit, ça, c'est incroyable.
C'est incroyable, c'est une émotion. À part la vibration, c'est une émotion qu'elle se propage dans notre corps. Et il te fait résonner, tout ça résonne. Tu commences à faire aussi, peut-être pas si bien, mais la petite chanson, la petite mélodie au violon, et c'est incroyable. Ça ouvre un univers qu'elle m'accompagne.
Le premier morceau complet, tu t'en rappelles encore, forcément.
Le premier morceau, je pense que c'était une Ninanan, une berceuse de Brahms pour violon en première position, facilité pour les enfants, et c'était incroyable. Et puis, tu vois, moi, je voyais tous les autres élèves qui étaient un peu plus poussés dans les études, et c'était toujours l'envie d'arriver à faire des pièces que j'écoutais, par exemple, dans les CD, dans les concerts.
Et donc, il y a toujours eu que le violon. Parce qu'en général, quand on est musicien comme ça, on touche un peu à tout, hein, on sait tout faire, un peu de guitare comme ça, même, je parlais même de batterie, on a le sens du rythme automatiquement. Non, il n'y a jamais eu une attirance pour quelque chose d'autre. Non, tout de suite focalisé par le violon.
Tout de suite focalisé pour le violon. Nous, pour études, on doit aussi jouer du piano, par exemple. Mais moi, je n'ai pas eu aucune attraction pour le piano pendant mes études. C'est un peu moins physique. Moi, le violon, c'est exceptionnel parce qu'on le tient sous notre corps. C'est vraiment le prolongement de notre bras, de notre...
Contact de notre, différent.
Un contact direct.
On dort avec son violon.
Moi, quand j'étais petit, j'ai dormi avec mon premier violon qu'elles me sont donné, j'étais tout fier.
Pas besoin d'ours en peluche, alors c'était le violon qui remplaçait, c'est ça.
un peu comme ça, je le tenais à côté de mon lit, j'étais tout content. Et c'était une sensation incroyable. Les autres instruments, moi j'adore écouter tous les autres genres de musique, d'écouter tous les autres. Je suis toujours émerveillé d'écouter une grande virtuose de guitare électrique, de batterie. J'adore tous les autres timbres des autres instruments.
Quel travail, en tout cas, le violon. On ne se rend pas compte, par exemple, une journée, on va parler après du côté concert, de l'émotion, de plein de choses. Comment est-ce qu'on gère une journée, Fabrizio Fonars? Qu'est-ce qu'il fait de ces journées? Comment est-ce que ça se passe? Moi, j'ai des fois envie de dire, on peut comparer ça, Fabrizio, à un sportif. C'est un peu ça, c'est un peu cette contrainte-là, c'est cette discipline, hygiène de vie, entraînement, etc., préparation. Après, il y a la préparation peut-être physique, mentale, tu sais, on peut comparer.
Absolument, absolument, parce que bien sûr, on voit une artiste, on dit c'est un musicien, il peut faire, il a la vie d'artiste un peu pas très, très régulier. Mais il y a vraiment une phase, par contre, une phase très rigide, très méthodique. Tu vois, on doit avoir, essayer de travailler dans les mêmes heures d'une journée. Il fait faire vraiment du sport parce que c'est sportif, on bouge notre corps. Les violonistes sont debout, il faut renforcer les jambes et la concentration. Donc, parce que c'est une performance, qu'on est dans une performance, c'est vraiment une concentration énorme. Moi, je pense, moi, j'étais pas une sportive professionnelle, mais moi, je pense que c'est la même chose qu'on, je sais pas, la concentration d'une finale que peut faire Federer, par exemple, il a la même concentration du musicien. Et pas la préparation constant.
Et ça, ça se travaille, pardon Fabrizio, ça se travaille ou on l'a déjà? Par exemple, toi, tu as, parce que dans le tennis, hein, on parle de tennis, il y a des coachs mentaux maintenant, des coachs, toi, tu en es aussi là? Tu as des gens qui t'aident psychologiquement, par exemple, ou pas besoin?
Mais au début, c'est plutôt ton maître que c'est ton coach. C'est ton coach quand tu fais quand tu arrives à un certain niveau, déjà tout de suite, déjà petit, toi, tu fais un peu de cours en plus. En plus, ils te suivent et ils te font sentir fort ou pas fort, et quindi le maestro, diciamo, c'est très, très important. Maintenant, bien sûr, il y a une préparation. Moi, instinctivement, j'ai une double face. Je peux être vraiment méthodique, je suis très ordinato, et puis tu peux être intéressé, curieux à la vie à toutes les autres expériences, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire la fête le jour avant le concert, ou même une semaine. Et il fait la régularité. C'est très important.
Et on doit jouer tous les jours, Fabrizio. Il y a des fois où il faut aussi peut-être s'accorder des jours de repos. Hein,
non,
tous les jours.
Non, il disait quand on travaille, on peut peut-être un jour pas travailler après une période, mais au deuxième jour, déjà, le public, il va sentir. Ça, c'était...
Parce qu'on perd beaucoup en vitesse d'exécution, tout ça, on se rouille un peu les doigts,
C'est les micro-mouvements que nous, on fait, qui sont très précis, très concentrés. Nous, par cœur, on connaît la pièce. Mais après, c'est l'automatisme de le donner à les doigts, qui est vite, après trois jours... On perd le contact, mais quindi pas plus. Puis bien sûr, maintenant, c'est différent, tu gères, mais dans la préparation, surtout au début, il faut être constant.
Et ça veut dire qu'on part en vacances une semaine comme ça au Maroc, on prend son violon.
Je me rappelais, joué sous la plage.
C'est
à l'hôtel, et il faut toujours, au moins, peut-être pas trois heures quand tu es en vacances, mais toujours cette petite heure de contact quotidien avec l'instrument, c'est important.
Eh bien, dis donc, c'est pas... On a parlé tout à l'heure, tu as parlé du maître, justement, dans le sport, si on fait toujours un peu référence avec le sport. Dans le sport, on a des entraîneurs, on a des coachs, etc. Toi, aujourd'hui, qui te guide, qui te conseille, qui te fait progresser?
Disons qu'aujourd'hui, c'est un peu... C'est moi-même, un peu le public, c'est l'expérience, c'est mes collègues musiciens qu'on répète ensemble, on peut... Mais le maestro, c'est une figure qui, au moins jusqu'à 20 ans, ça t'accompagne vraiment et il te forme. Et ça, c'est vraiment important.
Et le tien, c'était qui, on peut peut-être
c'était
comme ça?
C'était Giovanni Leone, le premier qui m'a porté au diplôme en Italie, et c'était un maître tellement passionné quand il parlait de musique, tellement aussi passionné à la vie. Quand il fallait travailler, on devait travailler, après, il y avait le loisir, il y avait la bouffe, il y avait le repas, et c'était une personne qui m'a vraiment signé beaucoup. Et après, moi, j'ai fait mon premier master ici à Genève, que c'était Corrado Romano, et c'était, par exemple, un caractère opposé, très précis, très méthodique, très attentif, mais avec la même passion. Donc, il faut trouver vraiment... Le maestro, c'est la chose la plus difficile à avoir. Il doit avoir et de l'expérience de concert, et savoir, communiquer avec... Pas seulement communiquer du musique, mais vraiment comprendre la psychologie de l'élève. Et moi, j'ai appris beaucoup, j'ai eu beaucoup d'autres aussi maîtres pour des autres masters, et c'est la chose la plus belle. À part faire des concerts, communiquer avec les autres. Donc, on communique avec le public, on communique et donner tout ce que tu as tu penses d'avoir compris aux élèves.
Trop tôt pour en parler, beaucoup trop tôt pour en parler, mais bien sûr que tu vas être un formidable maître pour la génération qui va suivre, parce que tu as une telle passion comme ça. Ça te traverse l'après-carrière. Bon, c'est un petit peu tôt, on va laisser tranquillement. Surtout que là, on n'est pas pressé par le temps, Fabrizio. Hein. Le violon, on peut en jouer jusqu'à quand?
On peut
très longtemps. Après, justement, il y a quand même un problème physique qui va se poser.
Peut-être le dos, on va voir. On croise les doigts. Mais enseigner ou transmettre, c'était toujours mon but final. Moi, c'est pas le concert, c'est de l'expérience que moi je vais écrire, disons, sous mon carnet pour transmettre à les autres. C'est vraiment le but que moi je pense un musicien il doit avoir. Et moi je pense bien sûr de le faire, mais même pas après la carrière concertiste. J'ai déjà donné.
En parallèle, on peut le faire.
Il y a des personnes qui déjà. Moi j'avais fait des masterclass, j'avais donné des masterclass l'été en Italie, et c'est extraordinaire. Et surtout dans les jeunes, quand nous on donne notre savoir, mais quelquefois c'est aussi la jeune génération qui te doit. Il te redonne une autre expérience et une autre savoir.
À Genève, par exemple, Fabrizio, tu as eu l'occasion de voir, je ne sais pas, au conservatoire ou dans des écoles de musique, il y a deux, trois talents comme ça qui circulent, ou dans les orchestres de la région, hein, l'orchestre de chambre de Genève, qui est excellent, avec lequel tu as joué du reste à Montreux, entre autres. Là, il y a vraiment des gens qui ont du talent.
À Genève, oui. Genève était toujours dans son histoire, dans son ADN, vraiment une des capitales de la musique classique. Par les talents qui arrivaient, qui sont toujours venus de tout le monde, de toutes les parts du monde, l'attraction qu'il avait le conservatoire, parce qu'il y avait des professeurs d'un incroyable niveau, et c'était une des centres vraiment où on respire la musique classique vraiment fort. Et avec l'orchestre de la Suisse romande qui est dans les top 10 du monde. Et donc, on respire ça. Et bien sûr, quand la ville est comme ça, bien sûr qu'il arrive les talents et il fait donner à ces jeunes le maximum possible.
Alors, on a parlé un peu de la préparation du côté de l'aspect, avant concert. Si on pense au concert, on revient peut-être au concert du Victoria Hall, hein, qui s'appelait du reste, Vibration. J'ai eu beaucoup de plaisir, on a eu la chance d'y assister, ça a été franchement assez énorme. Comment est-ce que tu as vécu ce, pour les gens qui sont venus peut-être, comment, tu avais l'air d'être effectivement très ému, ça a été, il y a eu quelque chose qui s'est dégagé une fois de plus dans cette salle, il y a eu des vibrations dans toute la salle. Comment est-ce que tu as vécu cette soirée?
Moi je l'ai vécu vraiment avec beaucoup d'émotion et surtout avec les partenaires du concert, que c'était le pianiste Keith Armstrong et le quatuor Eben. On s'est vu deux petits jours à Paris. On a répété assez peu, parce qu'on a répété, ça a quoi, 10 heures seulement, mais on s'est tout de suite compris. Donc, il a eu cette vibration entre nous, tout d'abord, qu'on a communiqué incroyablement avec ces jeux de lumière aussi qu'il y avait, parce que la lumière et les jeux de lumière...
Ah oui, c'était un spectacle à part entière.
Et expliquer vraiment la liaison, elle mettait une exaltation, l'harmonie des chefs-d'œuvre. Et vraiment, nous, on a dégagé cette l'émotion, l'envie de créer ces concerts. Et surtout qu'on a expérimenté déjà aussi dans la deuxième partie, mettre des pièces et des solistes différents, à les mettre de suite, une pièce après l'autre. Pas seulement une pièce par entière, mais seulement peut-être un mouvement ensemble avec des auteurs différentes et les faire converger. Au final, on avait la musique on dit en italien, à tutto tondo, la musique en sens vraiment large, l'harmonie totale. On passait du jazz à Beethoven, du Queen à Liszt, mais c'était tout à fait normal. C'était comme une playlist vraiment idéale pour écouter la musique qu'on ça te fait vibrer, c'est de la vraie belle musique.
Oui, alors ça, c'était en tout cas de la vraie belle musique. Quand c'est comme ça, quand justement, on va dire que la mayonnaise prend avec les autres, évidemment, instrumentistes, on regrette pas un peu que ce soit finalement qu'un soir, on doit se dire, mais dommage, on aurait bien continué, c'était tellement sympa, on aurait bien voulu recommencer demain. Finalement, c'est souvent des one-shots, c'est une fois, puis après, chacun repart comme ça, de son côté, c'est un peu ce qui est arrivé là.
Ça c'est vrai, c'est vraiment dommage. Pourquoi on n'a pas
quand
eu
on
de
sent
concert.
Qu'on a le bon groupe.
Mais quand maintenant on a senti qu'on a le bon groupe, on va refaire. On maintient le contact, on est en contact pour maintenant vraiment repartir sur cette production, et la faire revivre et pour aussi vibration numéro 2. Et quand il y a ce feeling, nous on se perdra jamais.
Et tout le monde le sent, quoi. Il n'y a pas eu que toi, évidemment. Ça a été.
J'espère.
Général,
moi j'ai vu
espère.
Que. Oui.
Bien sûr.
Le public est vraiment, il a trémé. Nous, on l'a senti et vraiment, on est assez fiers. Moi, je pense vraiment, on a conçu cette chose. On est fiers de qu'est-ce que vraiment on a produit. Et je dois dire,
Très peu de temps, avec très peu d'entraînement, c'est ça qui est fantastique. Non, très peu de répétitions.
Mali, c'est un déclic. Dans la musique, quand ça passe ou ça passe pas, c'est vraiment vite fait. C'est dans les premières 10 minutes de répète qu'on comprend si on est en train d'approcher la musique à la même façon.
Et un mot sur le public genevois, parce que nous, évidemment, on n'a pas tellement de recul. Hein. Moi, j'ai en l'occurrence pas trop l'occasion d'aller suivre des concerts de musique classique dans le monde entier, au Japon, ou je ne sais. Où, toi qui es maintenant évidemment genevois, bien ancré, enfin napolitain d'origine, on peut quand même le rappeler, merci du reste de parler français comme tu le parles, c'est une parenthèse.
Je parle tellement.
Non, c'est très très bien, une parenthèse. Le public genevois, il est comment au niveau musique classique? Parce que franchement, il avait l'air en tout cas d'apprécier, ça a l'air d'être un public de connaisseurs, oui, c'est ça.
Moi je pense que c'était une très belle mélange entre connaisseurs, pas connaisseurs. Moi, qu'est-ce que j'adore toujours dans le public ici à Genève, et la curiosité. Et la curiosité de vraiment que de l'approche. Ils viennent parce qu'ils ont envie d'écouter, ils ont envie d'assister, de sentir, de juger. J'ai une curiosité qui fait bouger vraiment le public et on le sent tout de suite. On le sent sur la scène, cette espèce de, comme je disais, la vibration qui rebondit dans le public. Nous, on donne de l'énergie au public, mais le public, il nous donne de l'énergie. Et il nous inspire. Fur et à mesure, toujours plus. Et ça, on l'a senti tout de suite. C'est une salle à Parc Victoria Hall, c'est une salle avec une acoustique magnifique. Mais le public, il avait une attention qu'il nous a vraiment donnée. Il donnait toujours l'énergie pour continuer. Et la curiosité est fondamentale comme approche. À les concerts de musique classique, comme on donne toutes les choses.
Et puis on essaye, c'est important de dire, hein, SAS, qui est Stradivarius Art & Sound, c'est quelque chose qui est, en fait, le message, c'est justement d'arriver à rendre la musique classique un peu différente, un peu plus abordable, hein, démocratiser un peu, dépoussiérer cette musique classique. Je crois que là, vous y arrivez très très bien, tout ça.
Hein,
ça ressemble pas du tout aux concerts de musique classique qu'on peut imaginer. C'est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus varié. Il y a de la couleur, il y a beaucoup de choses. C'est la force, parce que là, on a justement après un public forcément beaucoup plus diversifié. On n'a pas que des vrais connaisseurs.
Si, et c'est aussi à part de le contenu, dont nous, on essaye de lui donner toujours une petite plus, mais c'est de la musique classique quand même. Il fait la dépuceler, il fait la communiquer en façon franche, directe. Il fait la Stradivarius Art & Sound, il fait une communication à large spectre. Et il s'intéresse vraiment. Il aussi dans les préparations de ses concerts à Victoria Hall, il a porté quand même aussi cet artiste, ou quelquefois à jouer à l'extérieur, aller vers les gens. Qu'ils sont vraiment réceptibles, ils sont incroyables. Les gens, ils sont en vie, et quelquefois, ils ne connaissent pas, mais dès qu'ils écoutent une pièce de, je ne sais pas, de Paganini ou de Beethoven, ils sont stupéfaits. Ils sont stupéfiés, émerveillés, et ils viennent au concert. Nous, on essaie toujours de donner, parce que moi, je dis, la musique classique, il donne un message, bien sûr, qui est dedans, la musique. Mais quelquefois, il fait un peu l'extérioriser aussi. cette fois-là, il y avait la lumière, mais parce que la lumière, c'est l'émotion, c'est l'état, l'esprit de notre tête ou de notre âme, que pendant qu'il écoute la musique, il a des sensations et des couleurs dans la tête. Et nous, on les donne physiquement. L'autre fois, dans la première production pas si classique, avec les danseurs du Béjart Ballet et l'orchestre de chambre de Genève, dirigé par Gabor Takacsnagy, on a donné cet mouvement avec
ça,
les danseurs.
À Montreux, hein.
C'était à Montreux, mais on l'avait
aussi à Genève,
on l'avait
l'année
fait,
d'avant.
L'année d'avant à Genève. Pour expliquer que la musique, il bouge, et le corps, il bouge, la danse et la musique, ils sont ensemble. Les autres arts, nous, quand on travaille la littérature, la peinture, la danse, sont strictement liés à la musique. Qu'elle soit classique ou pas, mais sont strictement liés.
Un petit mot, peut-être, Fabrizio, toi qui vas dans le monde entier pour jouer, où est le public qui connaît le mieux, finalement, la musique classique? Où est-ce que c'est le plus, peut-être, le plus facile, j'allais dire, mais le plus prenant de jouer? Ton souvenir le plus fort, comme ça, depuis que tu joues, c'est lequel?
Moi, j'ai jamais vraiment analysé le public, parce que dès que tu joues, c'est langage universel, c'est des pièces de musique. Toi, tu
d'abord,
tu...
quand on joue, pardon, on voit encore le public, on est dans son monde, on est complètement... On est dans quel... Voilà, ça, c'est assez intéressant, je pense. On est dans quel état d'esprit quand on te voit comme ça avec ton violon? Vous avez l'air tellement, mais... Voilà, proche de l'instrument, j'ai observé un petit peu les autres, on est vraiment dans un autre monde, quoi.
C'est ça un peu, parce que la lumière, déjà, il te fait voir le public, la salle est noire, donc on les voit pas, on sent la respiration du public tout de suite. Après, nous, parce que la musique est un langage universel, tout le monde il comprend tout de suite, donc moi je me mets toujours en contact avec le public, que ce soit français, italien, japonais, chinois ou américain, n'importe. Bien sûr, chaque public, par exemple, a sa caractéristique, a son répertoire préféré. En Italie, quelquefois, il fait jouer des pièces vraiment un peu lyriques, passionnées. Ils sont des préférences, mais sans toujours le public dans une salle de musique, ça te donne une énergie, ils sont toujours dans le même approche, on dira. Pas, il y a le public français qui est très, très, très cultivé dans des salles. Le public suisse est très curieux, mais la différence est qu'on peut proposer des répertoires différents. Mais le commun dénominateur est que vraiment toutes les salles vibrent à la même façon. Et c'est les musiciens, Isaïe, qui était un grand violiniste et compositeur, il disait vibrer. À part de faire du vibrato au violon, soyez vibrants. Soyez vibrants. Et moi, je pense, si les musiciens vibrent, le public, il va vibrer.
C'est exactement ça, je vous rassure. On peut peut-être maintenant s'intéresser quand même à l'instrument lui-même. Bon, on a lu beaucoup de choses, hein, dans la presse, tant mieux du reste. Hein, il y a eu plein d'articles avant ce concert. Alors, on a compris que D'Angel était maintenant un violon à 8 millions, ça, on a compris. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet instrument, de cette histoire finalement, de ce Stradivarius d'autres?
Moi, je te dis, comme ça fonctionne un peu dans la carrière et dans les cursus, dans le processus du musicien. Nous, quand on est petit déjà, on a toujours un rapport avec des violons, qu'on a du talent, ils te prêtent des violons qui quand même sont précieux par rapport aussi à ton âge. Moi, je me rappelle qu'à 12 ans, j'avais déjà un violon de 30 000 francs. En somme, c'était une valeur. Qu'est-ce que ça passe? Que nous, on affronte un déterminé répertoire. Dès que le répertoire, ça devient toujours plus difficile, nous, on a besoin quand même d'une violon plus performante, capable de...
Pardon, ça veut dire quoi, un violon plus performant? C'est quoi? C'est au niveau du son?
Une violon qui résonne, qui a aussi d'expérience. Donc, un violon plus âgé, qui te donne cette possibilité de résoudre petit à petit toutes tes idées, tes idées musicales. Moi, si je veux faire vraiment une crescendissimo, moi, je dois avoir un violon qui vraiment, il me fait ses crescendo. Si j'ai un violon qui, il n'a pas tellement de puissance, moi, je serai limité dans cette chose. Ou, c'est un violon et pas si frais ou préparé à la plus petite des vibrations que j'ai fait avec l'archer, ça sort pas. Alors, je jouerai jamais pianissimo.
C'est ça.
Donc, les violons d'exception, ils t'offrent une palette de possibilités pour réaliser tes idées musicales. Et fort à mesure qu'on va dans notre carrière, ça t'arrive de devoir enregistrer un CD, une maison discographique, il t'a invité à enregistrer, une autre salle de concert, il t'invite à faire un grand concert. Moi, à l'époque, j'ai demandé toujours à la BIRS International Violin Society de me prêter un violon. Alors, ils voient qu'est-ce que tu dois faire, ils te les prêtent par rapport aussi à ton talent, insomma, qu'est-ce que tu dois faire. Et j'ai vu, quand j'ai joué pour la première fois un Stradivarius, que ça faisait 10 ans, j'ai vu qu'il y avait des solutions incroyables.
Après, on ne veut plus le lâcher. Une fois qu'on a essayé le Stradivarius, on ne veut plus entendre parler d'un autre, ou bien
non. Il y a tout le 1700, disons, il y a des Guarneri, il y a beaucoup de Stradivarius. Moi, j'avais essayé ces premiers Stradivarius, et après, je n'ai joué des autres. C'est passé que dans 2 ans en arrière... dans la salle d'enregistrement, dans la salle de Rosé Concerto, j'étais en train d'enregistrer mon CD avec Bruno Canino. Et ils me sont prêtés le The Angel Ex Madrileno 1720. Et là, il y a eu vraiment un coup de foudre. Franchement, on a enregistré, c'était tout bon. Qu'est-ce que je pensais de faire, réaliser toutes mes idées et depuis là, après, j'ai fait des concerts à Genève, des concerts à Naples et à Rome. Je devais le reporter, parce que beaucoup de fois, ces violons ne sont pas à disposition.
On les prête, toujours.
Ça se prête 6 mois.
Non,
mais ça se prête pour 6 mois, une année comme ça. Et à un certain moment, il y a eu l'encontre avec Monsieur Plon, et là, c'est parti en projet, en énergie, et on a décidé ensemble de participer à cette aventure.
La rencontre, justement, c'est important d'aller y venir avec Olivier Plan, qu'on profite de saluer. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est important aujourd'hui dans la carrière, quelqu'un qui vous a beaucoup aidé. C'est lui qui a en fait financé ce Stradivarius pratiquement à 95%, c'est ça?
Oui, moi j'avais dans ma carrière, j'ai réussi à avoir un très beau violon, que c'était une Guadagnini de 1754. Donc on a unit un peu les forces. Moi, j'ai mis le violon.
Il a fallu vendre celui-là. C'est ça, voilà. Pour racheter l'autre.
Et on l'a mis dedans. Et quand même, l'énergie que porte une personne, il veut être appelé entrepreneur. Il y a qui l'appelle mécénat. Mais quand même, l'énergie de ça, on l'a eu tout long de l'histoire. Sans les grands mécénats du passé, on n'a jamais pu avoir la grande musique qu'on écoute aujourd'hui. Donc, et c'est fondamental. Et en plus, je dois dire vraiment que Monsieur Plon, il a une énergie.
Il a de l'énergie, ça on peut confirmer.
D'idées.
C'est un passionné.
Un passionné, et mais surtout des idées et des choses qu'il a vraiment nous donné l'inspiration pour aboutir à vraiment...
Il donne l'énergie, il pousse en avant. Hein.
Et les musiciens, quelquefois, nous, on reste dans notre chambre, on travaille, quelquefois, on peut perdre peut-être le contact avec la réalité, mais lui, il t'ouvre, et c'était une rencontre, après avoir discuté vraiment une semaine, 2 semaines, sur les projets qu'il entendait vraiment réaliser, c'était incroyable.
Un mot, comme on parle de lui, Fabrizio, c'est ce baptême, parce que ça c'était quand même ce baptême du violon, on ne fait pas forcément 10 fois ça dans sa vie. C'était impressionnant, c'était en Italie. Raconte-nous un peu ce baptême.
C'est impressionnant parce qu'il
a changé de nom, hein.
Oui,
c'est l'ange.
Nous, on doit savoir que Stradivari, il donnait des noms, que c'était plutôt une dédicace à ses copains violonistes virtuoses. Quindi abbiamo lo Stradivari, par exemple, à Kreutzer. Mais fur et à mesure de l'histoire, des siècles, cet Stradivari, le son, il était tellement puissant qu'une personne est vraiment comme si c'était une personne. Et donc, tous les propriétaires, ils donnaient toujours un nom. Peut-être, dès qu'il l'achetait, il donnait le nom de famille, le nom de la vision qu'il entendait avoir ses violons. À un certain moment, M. Plon, il avait toujours dit, Il s'appelait Madrileño parce qu'il était retrouvé à Madrid ses violons de 1960 et le grand luthier Wurlitzer, il avait donné ses noms, Madrileño, pour ça. Mais c'est vrai, il disait, mais quand même, aujourd'hui, on a une vision différente, on veut aller vers les gens, on veut aider, on veut que la musique aide aussi toutes les autres personnes. Il avait une idée de changer le nom. Et ça, c'était incroyable, stupéfiant.
Une autre vision.
Une autre vision. Donc, après, on était invité par le Vatican à jouer à la Biennale d'architecture de Venise, parce que le Vatican participait pour la première fois à la manifestation. Et dans tout ça, on a mis toute l'énergie en accord avec le Vatican et le cardinal Gianfranco Ravasi, qu'on a rencontré avec M. Plan, et on a mis tout ensemble l'énergie. On s'est dit, bien sûr, après le concert, après la chose, on va le baptiser à la basilique de San Marco à Venise. Et c'est organisé. Mais après, il est arrivé tellement naturel que c'était vraiment un concert, c'était une expérience incroyable. Et D'Angelo, l'ange de l'angelo en italien, c'est vraiment le nom qui résume vraiment et synthétise vraiment à la perfection qu'est-ce que nous on veut et on est en train de faire avec ces violons. Le messager de la musique, le messager de paix, le messager de beaucoup de choses.
Mais ce que vous faites est complètement différent, Fabrizio. Quand je dis vous, hein, c'est avec justement Olivier et toute l'équipe hein, qui est avec vous dans cette SAS, comme on a dit. Vous avez joué dans une prison, hein, c'est ça, dans un pénitencier. C'était même à Chandelon ou c'était... Non, pas forcément.
À la Brenna.
À la Brenna, c'est à côté. C'est, voilà. Ça fait partie. Et puis aussi, il y a eu le coup de l'aéroport qui a été complètement incroyable. Raconte-moi un peu l'aéroport, ça fait un buzz de fou, ça.
Oui, exactement. Le début du violon, le premier concert, on l'a fait à la prison.
C'est ça.
Et ça, c'était une expérience incroyablement. On était sceptiques, je ne sais pas, le public, on avait préparé une heure de musique.
Un peu tendu, comme non ou non.
Non, pas, non peut-être non, c'était enfin... peut-être plus agent tendu. Nous, quand même, curieusement, si un peu la préparation, non. Mais nous, on avait préparé une heure de musique, hein. Donc un vrai concert. Donc on ne sait pas comment les gens réagissent, des gens qui peut-être ne sont pas l'habitude d'écouter de la musique. Après 2 minutes ou 3 minutes, il y a eu tout de suite un contact. Les gens, ils sont voyagés avec sa tête, peut-être, et ils sont allés où ils voulaient aller.
Les faire sortir de leur contexte.
De le sortir, et sont tombés à des souvenirs heureux de la vie peut-être précédente, ou de la vie ça. Et après le concert, c'est ça. Les prisonniers, ils nous ont raconté, mais cette musique, il m'a rappelé comme ma mère. Ils racontaient tous des histoires tout à fait plausible comme si c'était des mélomanes, comme si c'était un public tout à fait curieux et vraiment normal, aussi passionné. Et ils se sont fait des mêmes questions, combien d'heures tu travailles, c'est étonnant le pouvoir de moi, je me répète, de la musique ou du son d'un violon. Après, puis on est sorti dehors, on était en train de voyager, l'avion était en retard, on a commencé, c'était justement...
Complètement improvisé, à l'aéroport. Improvisé. Là, on est sorti de la prison entre-temps, et là, on est à l'aéroport, on est d'accord.
Non, vous m'avez, oui, ouais. Vous m'avez
non,
demandé.
Non, bien sûr.
Et à l'aéroport...
Donc là, il y avait du retard, vous étiez quoi, tout en groupe?
On devait aller, oui, voilà. C'était avec la Camerata du Léman.
Exactement.
Et on devait
aller
à Venise.
Dans laquelle joue votre épouse Karine. Voilà, qu'on profite de saluer parce que c'est une famille de violonistes. Voilà.
Voilà. Et on devait aller à Venise. L'avion a été en retard et on a sorti les instruments. Ils ont fait les vidéos pour quelqu'un l'a posté. Après l'aéroport, après.
Ah oui, ça a été le buzz total. Hein,
total,
c'était
plus de 4 millions. C'était une base vraiment importante. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire? Dans toutes les situations, entre les plus difficiles, hein, vraiment la musique aide. Et la musique, c'est une art universel. C'est un passe-partout incroyable pour soulager l'âme et le mental des personnes. Comme vous avez dit, parce que beaucoup de fois les sportifs, peut-être ça me revient, ils ont besoin d'une coach, non, pour les tranquilliser.
Coach mental, se fait beaucoup.
Mais quand on fait de la musique, c'est un peu la musique aussi le coach de nous-mêmes, parce que ça nous relaxe, ça nous concentre. La musique, c'est vraiment un massage pour l'esprit. Ça fait du bien, c'est ça.
La musique, on le voit, ça prend vraiment une place énorme, forcément, dans ta vie, parce qu'on profite de le redire, ta femme, qu'on salue encore une fois, Karine, est également musicienne. Donc ça veut dire que quand on est à la maison, comme ça on parle de musique tout le temps, on arrive à se sortir un peu du contexte.
Oui, on arrive à sortir du contexte. Bien sûr, on est pas là, parce que chacun a toutes les choses pour organiser, pour avoir des conseils. Pour avoir des conseils, mais après on détache un peu de ça. Autrement, ça devient pas trop comment on dit, ça transforme en quelque chose de trop. La musique, c'est une chose simple, on doit gérer, et quand même la situation de la vie en général, de la vie de couple, de la vie en sortant, il faut quand même à pas parler seulement de musique et se faire inspirer aussi d'autre chose.
On a du temps concrètement de faire autre chose aujourd'hui? Ben, parce que je sais que tu aimes beaucoup le sport, même un très bon sportif. Hein, je me suis laissé dire un bon skieur, en tout cas quand tu étais enfant, très bon skieur.
C'était toujours le tennis,
très bien aussi.
Tennis
et on m'a dit tennis de table, on m'a dit imbattable au tennis de table. On m'a dit là, il est très très fort.
Ping-pong, c'est vraiment, c'est pas mal. Moi, j'adore tout ce qui était sportif. Et là, une des difficultés, qu'à 14 ans, à la fin, tu dois vraiment arrêter. Parce que ça commence la carrière et on ne peut pas risquer quand même, parce que ce sont des sports qui, tout de suite, l'épaule, les bras, les mains sont les premières choses.
Donc là, il a fallu choisir, il a fallu arrêter le ski assez vite, malheureusement.
Et malheureusement, oui. Mais quand même, j'adore me promener à la montagne. J'adore, franchement, tu sais, moi, je suis Fonarx, je suis originaire de Soleure.
Alors, j'allais dire Fabrizio, c'est assez italien. Fonarx, ça sonne un peu plus dur, comme ça.
C'est Suisse-Allemand, c'était les Suisses-Allemands qui sont descendus à Naples dans 1780, à la fin du 1700, avec la domination française. Parce que Naples, comme était une ville dominée par beaucoup, ça a été dominé par les Arabes, les Français, les Espagnols. Et il y avait, à côté des Français, une belle groupe de Suisses. Qu'ils sont restés après à Naples. Dès que les Français, après, ils se sont retirés, les Suisses, ils voulaient rester, ils ne sont pas retournés en Suisse. Et donc, il y a une grande communauté suisse. Moi, j'ai fait l'école suisse à les primaires à Naples. Que c'était une école, et ça, moi, je pense que ça m'a aidé beaucoup, parce qu'il avait une approche à la vie vraiment artistique. On faisait beaucoup de théâtre, beaucoup de peinture, et bien sûr, quand je jouais pour du violon, c'est petit aussi, je faisais mes premiers concerts à l'école, et c'était tout à fait vraiment ouvert à l'art. Et ça m'a donné une empreinte artistique un peu à ma vie.
Alors, je me suis laissé dire aussi, parce que j'ai deux, trois petits espions comme ça, Fabrizio, qui circulent dans la République, je me suis laissé dire, on a parlé de peinture, que tu étais un très, très bon dessinateur. Là, on parle de dessin. Là, ça fait partie de quelque chose que tu aimes bien.
Tu me fais revenir, parce que quand tu as dit, toi, tu feras vraiment tout le parcours de ta vie, tu vois, quand on parle.
On est, oui.
Là, peut-être, alors, moi, je donnerais un peu plus de temps, je dirais, à la peinture. Parce que moi, j'étais vraiment, à un certain moment, à 15 ans, vraiment, là, j'avais pensé de la musique aux les beaux-arts. Parce que j'adore dessiner, j'adore vraiment...
Tu dessines quoi, par exemple? Tout?
Je ne sais pas en français comment on dit. Bien sûr, nature morte, ritratistique, au crayon, à les pastels. Et un peu à la peinture à huile, pas à l'aquarelle, par exemple. Et toutes les formes d'art contemporain, ça m'a vraiment un musée, vraiment, ça me donne des vibrations, une cadre, et le faire. Et j'étais pas mal, les gens le disaient que c'était pas mal, mes dessins. Mais là, après, j'ai choisi. Mais peut-être, dans ma vie passée, j'aurais pu dédier quelque chose en plus.
Mais là, tu as encore l'occasion de dessiner. Quand tu as un petit moment comme ça, oui, tu prends le pinceau, tu peins chez toi.
Je me suis donné ces défis maintenant. Petit à petit, je suis en train de retourner à ça.
Et on m'a dit où t'étais pas mal non plus, c'est en cuisine, c'est juste?
La cuisine,
j'ai des espions. Attention, j'ai préparé des missions, attention.
Essentiel. En fait, moi, je pensais là, quand tu disais, oui, l'école de musique, Et Petit Tempête.
On avait déjà le ping-pong, il y a le dessin, il y a la cuisine, il y a beaucoup de choses, hein, à part le violon. C'est pas mal.
Et un petit restaurant, parce que moi, c'est ma passion, cuisiner. Cuisiner,
ça m'a l'air. C'est quoi? Tu cuisines quoi? Un peu tout,
bien
là
sûr,
aussi.
Là, moi j'ai des formations italiennes, donc voilà. Les pâtes, les sauces, dans toutes les manières.
Chez toi, c'est toi qui fais facilement à manger.
Ouais. Moi j'adore la pâte, la sauce, les longs cuissons. Moi j'ai
mijoter comme ça.
Mijoter. Je suis sûr que toi tu connais pas une fois, je te le fais goûter le ragout à la napolitaine.
Aïe.
Non, mais le ragout à la napolitaine.
Une tuerie.
Parce que ça c'est une différence que j'ai trouvée à l'étranger dans tous mes voyages et mes masters. Le ragout, la sauce au ragout. La sauce au ragout à l'étranger c'est avec la viande hachée et de la sauce. Chez moi à Naples c'est pas ça. Ça c'est à Bologne, c'est seulement dans une ville, ma on l'a un peu internationalizzata questa pasta al ragù. Ma il ragù napoletano c'est une autre chose. C'est 5 pièces de viande différentes, grands. Ça peut être des ribs, ça peut être des pièces de bœuf très grands, mijotées avec de la sauce pour 9 heures.
Ah oui,
cuisiner le jour avant.
C'est mijoté ça.
Mijoté, après tu prends cette sauce riche de viande comme ça, très savoureuse, qui n'a rien à voir avec la pasta ragu que j'ai trouvée quelquefois dans des restaurants. Je pensais que je faisais le ragu à la napolitaine. Mais...
Et là, on sent aussi, quand tu parles de ça, d'abord, tu as des yeux qui brillent, comme ça je le dis, parce qu'on est en radio, c'est assez exceptionnel, c'est vrai. Et puis là aussi, il y a un peu des vibrations. Ça donne d'autres...
C'est le goût. C'est le goût de la... C'est quand même le sens du goût qui entre dans nous et il nous donne de l'énergie. Mais c'est la même chose parce que c'est beaucoup tactile. Mais c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec la musique. Nous, on doit donner, à part toucher l'écoute des gens, le son et les vibrations, il doit être vraiment tactile, il doit toucher les gens physiquement. Et quand on dit, quand le public, il a eu la chair de poule. Et c'est ça, parce que le son l'a touché physiquement.
J'en ai fait partie. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis.
Merci. Mais
beaucoup
c'est
d'émotions.
Ça. Et donc, toutes les formes dans la vie, comme aussi le saveur, le goût d'un bon repas, du vin, il te donne une sensation, il te donne une émotion. Et l'émotion, il va plus au profond, bien sûr. Et moi, j'adore.
Et la cuisine, qui t'a appris? Tu as appris comment? Sur le tas, c'est c'est le papa, c'est comment?
Moi, j'avais une grand-mère qui cuisinait très bien. Et...
Alors, une grand-mère qui cuisinait très bien, un grand-père qui jouait du violon.
Et au final, je me suis retrouvé pour la première fois, après mon premier master, quand je suis venu ici à 17 ans à Genève, j'étais toute seule. Je savais cuisiner très peu et j'avais rencontré un copain qui faisait une école hôtelière et il commençait parce que moi je devais cuisiner le soir. Maintenant j'étais plus chez ma famille.
Évidemment que le McDo tous les jours c'est pas forcément ça. Enfin on s'excuse pour eux du reste mais c'est pas forcément ça.
C'est ça et donc j'ai appris petit à petit toute seule à cuisiner. Ça m'a passionné. Lui m'enseignait beaucoup de choses aussi mais c'était vraiment passionnant. Parce que c'est comme dans la musique, dans l'harmonie. Si dans un plat, on se trompe d'une petite chose, un petit élément qu'on manque, ça casse tout de suite.
Il y a finalement beaucoup de similitudes entre la musique et la cuisine. C'est artistique.
C'est
hein.
Ça. Et donc, ça casse. L'harmonie du plat, ça termine comme dans la musique. Ça peut passer quelque chose, une chose que ça ne va pas, et on perd... tout de suite. Quindi, grande concentration quand on cuisine, quand on fait cette chose-là.
Il y a des choses que tu ne touches pas du tout en cuisine. Pendant qu'on y est, il y a des choses, par exemple, je ne sais pas, le poisson ou choses comme
non,
ça qui
non,
sont
non,
parties.
Non, je touche tout. Moi, je suis seulement allergique à deux, trois choses.
À quoi, par exemple
ça. Moi, je suis allergique à les coquilles Saint-Jacques.
Ah oui.
Et à les. En plus générique.
On remarquait qu'on n'en mange pas tous les jours en même temps. Donc, c'est mieux d'être allergique aux coquilles Saint-Jacques qu'à la farine, par
et,
exemple.
Au plus large, au conservateur.
Ah oui,
c'est donc déjà... tous la bouffe qui a beaucoup, beaucoup de conservateurs, même des choses, ça peut te provoquer une allergie.
Et ça se transforme comment?
Non, ça bloque la digestion.
Ah, d'accord.
Voilà. Okay. C'est pas si grave que
c'est
ça.
C'est pas si grave que ça. Bon, on a parlé un petit peu de ce qu'il y a autour du violon. Est-ce qu'il y a autre chose dans les hobbies, il y a des choses que tu fais qu'on ne sait pas? Parce que moi, j'aime bien savoir ce que les autres savent pas.
Non, moi, maintenant, c'est une période où je lis beaucoup. Mais moi, je fonctionne beaucoup à période, je pense.
Tu lis quoi, par exemple, là aussi?
Maintenant, je suis en train de quand même retraduire, mais c'était plus spécifique dans la musique, tous les vieux méthodes du violon, parce que je suis en train d'écrire une livre qui rassemble un peu, qui veut donner une approche différente pour une élève à vraiment la musique et au violon. Et puis, dessiner, j'ai recommencé, on l'a dit déjà, mais...
Je crois qu'il y a des dessins dans tes pochettes, hein, c'est ça, hein,
tu... Oh, moi, j'ai toujours laissé une pochette dans mes pochettes de CD, j'ai toujours mis un petit dessin de moi. Et puis, moi, j'adore me promener. Parce que nous, quand même, on reste à la maison, on travaille, à prendre de l'air, à me promener, regarder et...
On se ressource bien hein, quand on marche comme ça.
On marche, voir, rester, aller boire, par exemple, aller dans une bar, écouter, voir les gens. Moi, je suis très social comme personne.
À Genève, pendant qu'on y est, on aurait peut-être pu commencer par ça, mais pourquoi pas là, on va rappeler qu'on est dans un endroit que tu aimes bien, hein, c'est le restaurant de l'hôtel de ville, dans la vieille ville, juste pas très loin de chez toi. Qu'est-ce que tu aimes bien ici, dans l'endroit?
Mais moi, quand je suis venu pour la première fois à Genève, bien sûr, j'ai visité tout de suite la vieille ville. Il y a eu un coup de cœur, parce que un peu ça rappelait un peu un peu l'Italie, un peu les villes italiennes, avec toute cette pierre, cette petite ruelle.
Oui, il y a de l'histoire, il y a de la vie, il y a quelque chose, c'est vrai.
Et c'est vraiment, ça m'a rappelé ça. Et puis, mon premier petit studio, c'était ici, dans la vieille ville, quand j'étais jeune. Et une autre chose, c'est que moi, je pouvais vraiment étudier. J'avais peut-être aussi le quartier, le voisinage. C'était très, très, très cool parce que moi, je pouvais travailler vraiment des heures. Personne, les voisins ne me dérangeaient. Mais la chose, c'est que moi, tout de suite, je descendais et tu peux promener, tu prends de l'air et c'est fantastique. Tout d'abord, pour la vieille ville était... très proche à Place de Neuve, donc au conservatoire, où tous les jours, moi, quand j'étais étudiant ici, j'allais...
Oui, c'est très pratique, c'est très central.
C'est aussi pratique. Et non, ça, il y a une inspiration, une atmosphère que j'adore. Il y a beaucoup de restaurants, bars, où j'adore rester, écouter les gens, et faire beaucoup de connaissances. Moi, il y a toujours cet esprit un peu de café littéraire où tout le monde il va, il se raconte la vie, on refait le monde dans cette brasserie un peu comme ça typique. Okay.
On va terminer cet entretien, Fabrizio, avec... on revient un peu dans le violon, hein, on aura fait des allées et venues. Le programme maintenant, parce que l'année prochaine, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important, on ne va pas le rater, c'est quand même les 300 ans, tout simplement, du violon en question. Et Dianjian, il aura 300 ans l'année prochaine.
Incroyable.
Donc là, il y a une fête, il va y avoir une énorme fête. Plusieurs, même sur une année, c'est ça?
Mais moi, je pense, il y aura vraiment une grande fête. C'est
1720, hein.
1720.
Ça ne nous rajeunit pas, hein.
Non.
Non, on n'était pas là, heureusement.
Non, mais c'est impressionnant. On imagine, on prend un violon, 300 ans, toutes les choses qu'il a vécues.
On a 300 ans d'histoire dans ses mains, comme
dans
ça.
Dans ses mains, combien de fois il a joué les mêmes pièces, combien d'expériences il a acquis.
Pardon, il a changé de main combien de fois, ce violon, on sait?
On sait qu'il a changé beaucoup de mains, mais on ne peut pas les cataloguer. C'est toujours... beaucoup plus de qu'est-ce qu'on sait. On sait qu'il y avait des virtuoses russes qui le jouaient, les virtuoses espagnoles qui étaient retrouvées à Madrid, les collectionneurs, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais la chose impressionnante, c'est 300 ans, l'autre fois, aussi à Vibration, je ne sais pas, moi j'ai joué une pièce de Ernst Bloch, que c'est un compositeur ginevrino de Genève, et du 1958. Et le timbre d'une Stradivarius qui a 300 ans était parfait aussi pour une musique contemporaine. Cioè, il a travers les siècles, il a un timbre qui s'adapte. C'est comme Stradivarius, il avait vraiment anticipé le son et la musique de l'avenir. Et nous, on fêtera ça avec une tournée. On va aller là vraiment où était significatif pour le violon, toutes ces étapes. Il y aura une tournée en Italie. Il y avait bien sûr une concert ici à Genève où on veut démarrer aussi un petit festival, tu sais, pour lui faire un cadeau et pour vraiment expliquer, essayer d'expliquer la magie et le message de ces violons d'exception.
Mais aujourd'hui, personne n'a trouvé mieux que Stradivarius. On est en 2019, on ne va pas pouvoir reproduire ce son. Ça veut dire que là, maintenant, il faut, on va continuer d'utiliser ces Stradivarius pendant... Parce que moi, ça fait depuis que je suis né qu'on parle de ça, et puis on va peut-être encore en parler, mais ce n'est pas inépuisable. Enfin, l'avenir du violon va être comment ?
Mais l'avenir du violon, nous... On cherche tout
parce
le
qu'ils
temps.
Deviennent de plus en plus chers, évidemment.
Hein. Ah ben, enfin, plus le temps passe.
Parce que, quand même préciser, celui-là, il est 8 millions, oui. Mais ce n'est pas du tout le plus cher. Il y a des
bons, plus chers. Il y a 10, 12, mais déjà...
C'est infini.
C'est infini, c'est une œuvre d'art. Le violon, c'est une œuvre d'art. C'est comme un Picasso. Un Picasso, ça vaut 60 millions, ça vaut 80. Une Da Vinci, on l'a battu à 450 millions. C'est l'œuvre d'art, c'est l'histoire, à pas de prix. Mais... Nous, on essaie toujours des violons, on est toujours amis aussi des luthiers qui font des magnifiques violons. Stradivarius, moi, je suis sûr que quand il a sorti cette violon de l'atelier, c'est pas qu'il jouait si bien comme aujourd'hui. C'est le temps, c'est l'expérience, c'est bien sûr le génie de Stradivarius qui a donné un son incroyable à cet instrument. La chose est que le temps, peut-être le luthier contemporain d'aujourd'hui, dans 300 ans, son violon, il a pris une élasticité formidable. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et chaque violon, il a son timbre, sa personnalité, cette chose unique à chaque violon. Et c'est comme Stradivarius, il les met tous presque ensemble. Il y a l'endurance, il y a la beauté du son, il y a la vivacité du son, il y a tellement la beauté
et ça, on n'a jamais pu imiter. Parce qu'aujourd'hui, on imite les fausses montres, les
oui,
faux trucs.
Oui, mais comme tu fais à imiter...
Les Chinois, tout ça, ils n'ont jamais essayé
Mais comme tu fais imiter un arbre, c'est différent d'un autre arbre, donc les venatures que tu peux voir sous ces violons sont inimitables. Cioè, parce que cet arbre-là est mort et il y a un autre arbre qui est différent. Donc, on peut imiter... La forme, on peut imiter les mesures.
Mais pas la texture, pas la structure.
Mais pas la texture de cet arbre-là. Donc, et ça, c'est une chose extraordinaire. Qui, fur et à mesure, que maintenant, ça fait depuis des années, on joue ces violons, on a vraiment compris vraiment la différence. Et la palissiane est incroyable, est facile à comprendre.
Fabrizio, si on en revient au son, le son, il restera toujours, évidemment, le même.
Mais le son du Stradivarius restera toujours le même. Il fait comprendre seulement une chose, que Stradivarius, il a fait un instrument qu'il a une résonance incroyable. Donc, après, c'est cette résonance qui vient en contact avec la résonance du corps du musicien et la résonance de ses idées musicales. Toutes ces trois résonances ensemble, ils forment le son d'un instrument, comme on appelle le son. Donc, quand il change le musicien, quand il arrive, on développe toujours des sons différents. Tu vois, on donne du pouvoir toujours en plus
pas
à l'instrument.
Pas tout le monde sort... Le même son de cet instrument.
Pas le même son. On donne des caractéristiques, nous-mêmes, les musiciens, à le violon. Nous, on l'adapte. C'est comme, au final, c'est comme une voiture. C'est nous qui on décide, à seconde de mon corps, quelle corde mettre sur le violon, quel archer utiliser, parce que le son change aussi quand tu changes l'archer. Donc, c'est tout une composante, toute cette composante, nous, comme on dit, les voitures, quand il arrive un pilote et il commence à changer l'assetto de la voiture, nous, on change et on donne notre idée de pouvoir sortir le meilleur son de ces violons. Et il va toujours en évolution. Donc, ça aura toujours une évolution, le son de cette violon comme ça. Et Stradivari et tous les luthiers du 1700, ils sont préparés cette caisse de résonance au top pour être vraiment développer dans les siècles. Donc, ça peut être que dans 200 ans, encore, ce violon jouera encore mieux. Parce que qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit des atouts incroyables. Et c'est ça que je sens. Quand tu as un violon nouveau, surtout un violon avec cette résonance-là, tu recommences tout avec une envie, une énergie. Il te donne, il te suggère des choses. Tu as un contact vraiment humain, comme une personne. Tu parles avec ton violon parce qu'il te donne inspiration et tu lui donnes énergie et c'est un échange formidable.
Et avoir un Stradivarius comme ça au quotidien, c'est quand même une responsabilité de fou, quoi. Je veux dire, on ne peut pas aller dans un endroit, on a toujours peur de l'oublier. Comment ça se gère? On n'a même pas, pardon de le dire, mais on n'a pas peur de... balader avec un instrument comme ça.
Moi, je ne pense plus. Il ne faut pas penser. Non. Il ne faut pas penser. Il ne faut pas le dire parce que sinon, vraiment, on devient fou. Mais il ne faut pas penser. Moi, comme je me répète, moi, j'avais toujours, à 14 ans, j'avais un violon que ça coûtait...
30 000.
Puis 400 000. Insomma, toujours, le violon était...
On sait, ça fait partie du...
Donc, j'ai fait l'habitude. Bien sûr, une strade comme ça, tu es un peu plus agitato. Oui, mais quand même, on gère. Et moi, je le joue beaucoup. Il est toujours avec moi. Parce que moi, je passe toute la journée avec lui. On joue. Après, il reste chez moi. Et si je voyage, je le prends.
Il y a un entretien, non, à la maison. Mais il faut l'entretenir. Il ne faut pas le mettre trop près du radiateur, quand même.
Exactement. C'est la température, la chose importante. Il doit être jamais exposé au soleil direct. Il doit jamais être exposé au froid sec parce que ça peut casser le bois. Quindi il y a la température et c'est très important. Nous après qu'on joue, parce que toi tu as vu que l'archet, il y a la colophane sur l'archet, il donne un peu de poudre, quindi on nettoie très peu facilement. Et chaque 6 mois, 7 mois, on va chez le luthier pour voir s'il y a c'était un peu décollé comme ça, mais pas grand chose.
Merci beaucoup. Fabrizio Fenarx, merci.
Merci à toi, Michel, vraiment.
Merci d'avoir écouté Direct News, le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, eh bien, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.